display, never was, never will ever be for you. I won't help you understand, I don't need no helping hand. No, see, these aren't tears, this is the ocean. These aren't fears, this is devotion. Alors, bonsoir à tous. Donc, du coup, on est toujours en direct. Non, plus en direct, mais on est toujours sur Radio Galère. Ah, vous enregistrez en plus. Donc, j'ai plus à le dire et je n'avais pas dit avant. Donc, je vous invite à tous nous rejoindre dans la salle principale. Alors, on a tous rêvé d'une presse indépendante, libre. Et peut-être encore plein d'autres choses, et c'est un peu l'objet de la table ronde de maintenant, c'est de que vous répondiez, enfin qu'on parvienne peut-être à répondre à la question « Quelle information voulons-nous ?» Et donc je laisse la parole à Lisa Castelli de Mars Actu.
Bonsoir à tous, je vous invite à vous rassembler un petit peu, puisque l'idée de ce deuxième temps, ça va être d'être un temps participatif, un temps d'échange, un peu dans un esprit état généraux, hein, on va essayer d'échanger des idées. On a un panel de profils super différents, mais qui, pour nous, nourrissent un petit peu les choses qu'on pourrait souhaiter pour la presse indépendante évidemment, pour la presse plus largement. Pour vous expliquer, avant de vous expliquer les règles, parce qu'il y aura des règles du jeu pour ce deuxième temps, l'idée qu'on a, c'est d'essayer d'être dans le souhait, dans l'espoir, d'imaginer des choses pour la presse, avec évidemment les questions d'indépendance en tête. Le but, c'est pas, contrairement à ce que disait Jean-Baptiste, d'arriver à quelque chose à la fin du débat, on n'a qu'une heure quinze, mais l'idée, c'est plus quand même d'être dans du concret, d'échanger sur des choses qui peuvent changer dès maintenant, des propositions, des idées. On va essayer de tout noter. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à noter. Vous l'avez peut-être vu en arrivant tout à l'heure dans le hall d'entrée. Il y avait la possibilité de répondre à la question qu'on a posée hier déjà sur la Canebière, qu'on a aussi posée à tous ceux qui ont réservé en ligne pour être là ce soir. La question qu'on posait, c'était, selon vous, que manque-t-il à la presse? Et donc, on va essayer de travailler ensemble, même s'il est un peu tard pour travailler, mais en tout cas de phosphorer ensemble sur cette question-là, avec donc au final une question qui résume tout ça, qui est quelle information voulons-nous? Et pour le faire, on va le faire ensemble et on va le faire avec Samuel qui va nous expliquer le mode opératoire pour l'heure de débat qui nous attend.
Oui, bonjour. Ça marche? Oui, bonjour, Samuel Val de Média Vivant et membre de la Fédération de l'audiovisuel participatif. Donc voilà, par souci de transparence. Alors, une table ronde participative, on n'avait jamais vraiment essayé ça, donc on s'est dit que ça valait le coup d'essayer aussi des choses ensemble dans le cadre d'états généraux, d'inventer ensemble. N'hésitez pas à venir vous asseoir, ce sera pour mieux vous relever après, parce que c'est un peu ça le dispositif qu'on a imaginé, pour arriver à mettre nos cerveaux en commun et en mouvement. On va essayer aussi de pouvoir se déplacer, d'impliquer nos corps. Donc, tout simplement, comme on a récolté ces paroles, qui sont possiblement les vôtres ou possiblement celles qui nous viennent de l'extérieur, on les a remises au centre ou plutôt en fond de scène ici. Et c'est de ces paroles-là qu'on va vous proposer d'appuyer la réflexion. Donc, tout simplement, les intervenants les invités qui sont ici vont eux-mêmes vous montrer comment ça marche, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ou ils vont choisir ces mots, ces propositions qui viennent de la rue pour se présenter dans un temps, si possible, de 2-3 minutes, de façon à ce que ensuite vous puissiez faire de la même façon. Lisa va se tenir à un endroit et vous pourrez aller lui prendre son micro. Le temps de développer votre propre pensée, questionnement, proposition. Voilà, il peut y avoir différentes natures de paroles. Mais l'idée, c'est qu'on vienne, qu'on s'avance. On va essayer de faire un peu un chemin, d'ailleurs, pour que ce soit possible. Qu'on se rapproche, qu'on se déplace. Et que quand on est là, en 2-3 minutes, on puisse s'adresser soit à l'ensemble des uns et des autres, soit aussi aux personnes qualifiées qui vont se présenter maintenant, des interrogations, des interpellations. Et qu'on réfléchisse ensemble à cette question de quelle information voulons-nous. Voilà. Est-ce que la règle du dispositif est à peu près claire pour tous. Elle est simple, elle permet l'écoute. Et puis vous vous souvenez que certains d'entre nous, on a passé des nuits entières debout à parler. Voilà. Mais là, il va falloir se lever. Il va falloir que vous soyez debout et que vous preniez cette parole. Le micro est à disposition pour ça.
Voilà, donc je vous présente notre panel de ce soir. On a avec nous Baïa Bélanger. Ici, je commence de ce côté-là, Baïa Bélanger, qui est documentariste et qui est aussi cofondatrice de l'association La Chance pour la diversité dans les médias. On a à ses côtés Anne Brezin, qui est chargée de mission pour l'organisme de formation, la Fondation de l'audiovisuel participatif. La Fondation, pardon. Ensuite, à ses côtés, on a Rémi Kenzo Pages, qui est représentant ce soir de l'AJAR, qui est l'association des journalistes antiracistes et racisés, et journaliste par ailleurs. Et à ses côtés, Annabelle Perrin, cofondatrice de La Disparition, un nouveau média fondé à Marseille, dont elle vous parlera, qui a par ailleurs, je le dis aussi pour la transparence, participé à l'élaboration de cette deuxième table. Et enfin, Romarie Daval, qui lui représente l'association Un bout des médias, qui est une association autour des réflexions, et il nous expliquera autour des modèles économiques pour la presse indépendante. Et voilà ce que je pouvais dire là-dessus, fondée par l'économiste Julia Cagé. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà pour le panel. Et je vais laisser Tim Vinchon. Tim Vinchon, qui est ici au nom de sa newsletter Rembobine, que vous pouvez découvrir au Village Média, comme tous les médias présents ce soir, qui va nous dire un petit peu ce qu'on a récolté comme proposition, comme souhait, comme demande.
Bonjour à tous. Donc pour récolter toutes ces paroles citoyennes, on a utilisé un outil qui s'appelle le porteur de parole. Donc on a affiché cette grande question sur la canebière hier, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans le hall d'entrée. Le principe, c'est d'avoir cette question et de pouvoir y répondre et de noter cette réponse sur une feuille en papier. C'est très simple. Ça permet à chacun de s'inspirer, de pouvoir poser sa réponse à soi. On a été quatre sur la canebière hier, eu des grands axes qui se sont dégagés. Je vais un peu vous les présenter avant que le panel détaille un peu les réponses choisies. Quelque chose qu'on a tout de suite fortement remarqué, c'est cette question de l'information positive, parfois reliée au local, parfois liée surtout à ce qui existe, l'information qui plombe. Donc, un certain nombre de personnes nous ont parlé de ce besoin d'informations positives. Camille, 9 ans, aussi nous parlait d'humour. Elle nous disait, s'il vous plaît, mettez de l'humour dans les médias. Moi, à 9 ans, quand on me dit il faut lire Le Petit Quotidien, je trouve ça nul parce que tout est plombant. Voilà. Beaucoup de réponses très diverses, et je vous inviterai à les lire en détail parce que vraiment chaque parole est très belle. Un autre point qui est ressorti, c'est cette question de l'indépendance des médias, évidemment. On en a beaucoup parlé ce soir, on va continuer à en parler. Dans un vocabulaire plus ou moins acceptable. Donc je citerai celle-là, des modèles économiques stables pour durer et laisser le temps au travail journalistique sans souci d'argent. Plusieurs réponses de ce style-là. Un autre point, et là particulièrement sur la canebière, auprès de gens qui n'avaient pas prévu de répondre à cette question, qui ne s'étaient pas inscrits à un événement, nous ont parlé de la question de la parole des minorités actives, plus grande variété de sujets. Rémi, tu as aussi pris pas mal de mots, mais globalement la voix des personnes minorisées, ouvriers, toutes les personnes qui subissent des oppressions. Je pense qu'on a une douzaine sur les 50 mots de mots liés à cette question. Dernier gros point, cette question de qu'est-ce que l'information. Alors chacun a son avis là-dessus. Certains demandent plus d'écoute et plus d'intelligence. On l'a quand même pas mal, ça, cette question de pas d'interruption des orateurs qui sont en train de parler ou de débat sur le temps long. Cette question des opinions et des faits qui est toujours quelque chose qui est très discuté par les citoyens, de l'humain, la vraie vie des gens, pas mal de choses comme ça. Voilà, je vous invite vraiment à les lire en détail, encore une fois. Chaque parole est très belle et très pertinente, et je laisse le panel vous détailler leurs choix, et j'espère vous entendre aussi là-dessus.
Et du coup, j'y vais avec le micro jaune. Du coup, on peut démarrer. On va peut-être faire tout simplement dans l'ordre tel qu'il est là maintenant. Baya, vous avez choisi un papier. Je vous laisse nous expliquer en quoi ça se raccroche à votre travail et à votre démarche.
Donc moi, j'ai choisi les personnes minorisées. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce qu'elles ne sont pas vraiment minoritaires. Je veux vous parler des classes populaires qui représentent donc quand même 47% de la population active en France. Donc si on prend les ouvriers, les employés, or... ils sont sous-représentés dans les médias et ils sont également sous-représentés donc dans les rédactions. Et moi j'ai cofondé donc une association qui s'appelle La Chance. Et cette association a été cofondée sur un double constat. Le premier constat, c'est d'abord celui d'une injustice flagrante, qui est que quand on veut devenir journaliste, c'est beaucoup plus facile si on est issu des classes supérieures que si on est issu des classes populaires. Et puis le corollaire de ce premier constat, c'est un deuxième constat, c'est que les rédactions, et notamment les rédactions nationales, sont une surreprésentation des classes supérieures. Et ça pose un véritable problème, puisque quand on est journaliste, on est censé donc faire le récit des tensions et des problématiques qui traversent la société française. Et ce serait tout à fait logique et légitime qu'il y ait une plus grande représentativité des journalistes, de la population française, pardon, parmi les journalistes. Moi, en 2004, j'étais dans une école de journalisme à Paris, et j'étais une des rares étudiantes boursières de mon école, et je me disais à l'époque, mais avec un concours aussi sélectif, comment c'est possible de réussir si on n'a pas fait une grande école comme Sciences Po, si on n'a pas les moyens de se payer une prépa privée, donc il faut compter entre 3000 et 4000 euros l'année, c'est hyper cher. C'est quasiment mission impossible, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas de prépa publique pour les écoles de journalisme, comme il peut en exister, par exemple, pour les écoles d'ingénieurs, avec Mathsup et Mathsp. Et donc, l'idée, ça a été de dire, pourquoi pas créer une association qui permette de former gratuitement des étudiants avec des journalistes bénévoles qui les formeraient et qui seraient réservés donc à des étudiants boursiers, donc issus de familles plutôt modestes. Et donc au début, oui.
Du coup, on est sur les 2 minutes.
Oui.
Donc il reste encore.
J'ai fini. Je dirais juste que aujourd'hui, on est on prépare donc 80 étudiants par an. On a commencé, on était 10, aujourd'hui on est 80 étudiants par an dans 5 villes en France, dont Marseille. Et à notre échelle, c'est vrai que c'est un travail vraiment titanesque et que pour nous, c'est une grande satisfaction parce qu'on a vraiment l'impression de faire la différence pour ces étudiants-là. Mais à l'échelle du pays, il y a un problème majeur qui est le problème de l'inégalité des chances en matière scolaire, et ça ne pourra pas se résoudre par des petites actions associatives, ça c'est vraiment un problème systémique qu'il faut adresser de façon vraiment globale.
Merci. Merci beaucoup. Anne Brezin, je vais tâcher de vous voyer, même si parfois on peut se connaître. Voilà, Anne Brezin, chargée de mission en éducation aux médias, à l'information et à la liberté d'expression, à l'EMIL. Pour la Fédération de l'audiovisuel participatif.
Ouais, moi j'ai pris la diversité sociétale dans les rédactions, peut-être comme porte d'entrée. Porte d'entrée parce que moi j'entre sur les questions d'éducation aux médias et à l'information par les médias de proximité. Les médias de proximité qui pensent leur action médiatique en fait sur un territoire qui peut être à la fois à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à des échelles d'une agglomération, qui peuvent être en milieu hyper-urbain ou dans les territoires ruraux, en fait. Et de par cette action, en fait, et de par un peu l'ADN de ces structures, je suis arrivée sur les questions d'éducation aux médias et à l'information, à savoir, en fait, de par leur forme, ces médias de proximité qui incluent les publics au sein de leur rédaction, qui incluent et qui sont dans cette volonté de diversifier en fait les profils, à la fois les profils professionnels et sociaux des personnes qui, euh, qui, qui agrègent ces rédactions. En quoi, dans cette démarche même, en fait, il y a une démarche d'éducation aux médias, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on rentre dans une rédaction, comment est-ce qu'on crée des contenus médiatiques et comment est-ce qu'on s'adresse en fait au public. Aujourd'hui, je suis effectivement un peu spécialisée sur les questions d'éducation aux médias parce que un des appuis forts qui occupe pas mal de mon temps, c'est la formation professionnelle. L'éducation aux médias, elle existe certes depuis très longtemps, en fait, historiquement. Elle peut exister par la pratique, elle peut exister par la théorie, mais en fait, elle émerge après les attentats de Charlie Hebdo. Et dans cette émergence, en fait, de ce besoin qui naît et qui est reconnu en fait institutionnellement et qui d'un coup prend de l'ampleur, la question c'est qui est légitime pour en faire. Et du coup, cette question-là, en fait, elle s'est posée. Elle s'est posée pour les acteurs des médias de proximité que je connais bien, qui à un moment donné ont été tapés à ses portes pour dire mais en fait, ok, nous on en fait déjà et on veut bien progresser dans notre manière d'en faire. Et elle s'est questionnée aussi plus largement par les branches professionnelles, notamment par les branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, qui ont étonnamment réussi à collaborer ensemble pour faire émerger une certification, qui est la certification éduquée aux médias et à l'information, où aujourd'hui il y a 8 organismes de formation, ça veut dire qu'il faut que je me dépêche, on y est presque, il y a 8 organismes de formation qui sont habilités à faire passer cette formation et à certifier des gens, et qui ramènent en fait une reconnaissance de cette fonction d'éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Voilà, et peut-être que ce que j'ai envie de témoigner rapidement, parce que tant pis pour le cadre, c'est que les retours qu'on a des éducateurs aux médias et l'information, souvent d'ailleurs quand ils sont journalistes un peu plus éloignés des terrains, un peu plus éloignés des logiques participatives, c'est que quelque part ça leur permet d'être au contact des publics, ça leur permet de mieux comprendre en fait ce qu'on voit d'eux, ce qu'on attend d'eux, du décalage qu'on peut trouver des fois entre les médias et les publics, et que du coup en fait c'est un biais de rapprochement en fait et de lien.
Merci. Je rappelle que le cadre il est commun, c'est-à-dire que si on est bien sur nos temps, ça permet à chacun aussi de venir prendre la parole à la suite. Voilà. Donc du coup Rémi. Je vous laisse la parole aussi pour vous introduire à partir de cette question. Ce qui manque dans les médias, c'est
beaucoup de choses, mais y compris la voix des personnes minorisées comme les ouvriers et tous ceux qui subissent des oppressions. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit avant, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a des... Il y a des analyses, des préoccupations qui se rejoignent, et finalement, il y a beaucoup de constats communs. Bon, moi, j'ai pris 3 feuilles parce qu'on m'a dit que j'avais le droit d'en prendre plusieurs. La première, elle concerne directement ce qu'on veut mettre en avant, nous, l'AJAR, l'association donc, des journalistes antiracistes et racisés. On est une association en fait, très jeune. On s'est rendu public en mars 2023 et on voit en moins d'un an, on est déjà plus de 200 adhérents. Donc ça montre à quel point il y a une vraie problématique sur ce sujet. On est une association en fait, qui sommes nés d'un constat qui est que il y a un problème de diversité. Les rédactions, en fait, elles sont blanches. Nous, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a ressenti en tant que journaliste racisé. On était souvent seuls dans nos rédactions. Et déjà, avant les rédactions, on était seuls en école de journalisme. D'ailleurs, ça vaut pour tout type de rédaction. Ça vaut, bien sûr, pour les rédactions des milliardaires, les médias qui appartiennent aux grands groupes industriels. Mais malheureusement, ça concerne aussi toutes les autres rédactions, y compris les rédactions indépendantes. D'ailleurs, j'étais aux EGPI aussi à Paris. J'avais fait le constat que la salle était aussi blanche. Et malheureusement, je fais un peu le même constat ce soir encore. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a aussi du travail à faire dans le recrutement de tout type de rédaction. J'ai pris cette fiche sur la parole des personnes minorisées, mais en fait, j'en ai pris 2 autres qui me parlaient beaucoup. C'est des sujets qui racontent nos vraies vies, notre quotidien. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'être isolé dans nos rédactions, en tant que journaliste racisé, ça a bien sûr un impact sur nos conditions de vie, de travail, sur notre mal-être en tant que journaliste, mais ça a aussi un impact important sur l'éditorial, sur la qualité de l'information qu'on produit. Pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est les biais racistes, l'information qui est maltraitée. Par exemple, nous, à la JAR, on fait du traitement médiatique, de la critique des médias, on a relevé énormément de choses. C'est par exemple Radio France qui a fait un article sur les chauffeurs VTC, qui sont souvent des personnes racisées, noires, qui illustrent l'article avec un singe au volant. Voilà, typiquement, ça, c'est un exemple de traitement médiatique qu'on peut retrouver dans les médias. Là, on parle de Radio France, on parle de France Bleu, en l'occurrence. Donc, quand même, l'audiovisuel public. C'est aussi des impensés, c'est des angles morts, c'est tout simplement... Donc là, on est directement sur cette question de notre quotidien, de nos vraies vies, en fait. C'est tout simplement ne pas penser, dans nos rédactions, à aller dans les quartiers populaires, etc. On l'a vu, par exemple, avec l'épisode de la mort de Naël, où tout simplement, nos rédactions ne savaient pas comment faire pour traiter ce sujet, parce que, en fait, elles n'étaient pas dotées dans leur rédaction. Je fais vite parce qu'on me le demande, mais il y a une troisième fiche que j'avais notée, c'est des CDI. Des CDI, ça nous concerne directement parce que le constat qu'on fait, c'est aussi que quand il y a des journalistes racisés dans les rédactions, souvent, en fait, ce sont les journalistes qui sont dans les positions les plus précaires. Ce sont rarement des journalistes qui sont en situation de responsabilité, qui sont dans les postes, dans les positions les plus favorables au niveau de la hiérarchie, mais ce sont aussi des journalistes, en fait, qui font toute leur carrière pigistes ou qui enchaînent les CDD, etc., voire qui malheureusement quittent tôt la profession. On a peu de chiffres, on a quasiment aucune donnée là-dessus, mais ce serait très intéressant de savoir en fait la durée moyenne d'une carrière d'un journaliste racisé.
Je vous remercie beaucoup pour cet autocontrôle. Merci Rémi Kenzo. Annabelle Perrin, ce qui le manque dans les médias, donc le manque, c'est aussi le désir peut-être. Qu'est-ce que vous avez saisi de ces désirs qui s'expriment
Bonsoir. Alors moi, j'ai choisi une phrase de Bob, 38 ans, qui dit « Une approche plus ludique comme la revue dessinée ». Alors je ne sais pas si vous connaissez la revue dessinée, mais en gros, c'est de l'info sous forme de BD. C'est assez chouette, je vous invite à jeter un œil. En fait, je vais peut-être apporter une voix un petit peu dissonante, mais finalement pas tant que ça, parce que je pense que ce que je vais dire va rejoindre vos propos. J'ai monté un média qui existe depuis maintenant 2 ans, qui est un média épistolaire, qui s'appelle La Disparition, où l'idée, c'est qu'on raconte ce qui disparaît dans le monde, et le format est un peu original, on le fait sous forme épistolaire, sous forme de lettres. Toutes les 2 semaines, nos abonnés reçoivent sous forme vraiment de courrier, quoi, dans leur boîte aux lettres, longue lettre, donc, écrite par des journalistes ou des écrivains qui racontent toujours une histoire de disparition. Je vais essayer de faire vite. On a eu l'envie de fabriquer ce média pendant le confinement. L'élément déclencheur a été, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle, l'attestation de déplacement. En fait, on a été heurtés, choqués, même si c'était un moment extraordinaire qui était la pandémie bizarre à laquelle personne n'avait été... on ne s'y attendait pas, quoi. On s'est dit quand même, sur décision du gouvernement, en quelques jours, on peut accepter une attestation de déplacement. Et donc cette attestation de déplacement nous enlevait un droit qu'on croyait être quelque chose d'immuable là pour toujours... en soi, se déplacer dans notre ville. Et on se dit, en fait, il y a des choses qui peuvent disparaître, comme ça. Alors là, le droit de se déplacer chez nous, en l'occurrence, on était à Toulouse, c'était temporaire, on peut aujourd'hui se déplacer librement, mais finalement, des choses disparaissent. Évidemment, on pense à la biodiversité et tout un tas de choses. Certains quartiers, enfin, le thème de la disparition est devenu englobant, et en fait, il nous a intéressés. Évidemment, il y avait le thème de la disparition appelle à quelque chose d'écologique, aux espèces, à la biodiversité, etc. On s'est dit qu'on tenait quelque chose. Mais pourquoi j'ai retenu cette parole ? Parce que je crois en la mise en scène de l'information. Et cette mise en scène ne serait pas forcément quelque chose de bâtard, ou ne serait pas quelque chose de dégoûtant ou de faux. En fait, au contraire. Et donc, du coup, on s'est dit comment raconter ce qui disparaît dans le monde ? On a réfléchi à des formats, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, un site internet, une revue, bon c'était un peu... Et c'est ça aussi de faire de la presse indépendante, et qui veut dire presse indépendante veut dire presse un peu pirate, presse un peu bizarre, presse un peu... Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et là on a trouvé l'idée de la lettre et de l'épistolaire. Et donc pour essayer de pallier à ce truc, à ce thème qui est effrayant et qui en fait n'est pas vendeur. La disparition, eh bien du coup, on a trouvé la correspondance et les lettres. Ça va ?
Merveilleux. Des informations positives, mais pas que, voilà. Des nouveaux formats, de l'inventivité, ça rejoint plusieurs des choses qui sont écrites là. Romary Daval, association Un bout des médias fondée par Julia Cagé, présentez-vous à partir des questions qui viennent du public lui-même. Et puis alors, le public va être en jeu juste après.
Ouais, alors je représente Un bout des médias. J'ai la particularité de ne pas être journaliste, ce qui dans les gens que vous avez entendus ce soir est assez rare, mais de m'intéresser beaucoup au sujet. Donc j'ai choisi alors plusieurs, les deux premiers sont complémentaires, je vais essayer de les traiter en même temps, dans le temps imparti, et le troisième me fournira l'occasion de vous poser une question à vous tous. Le premier mentionne la transparence des sources. Alors, la transparence des sources, c'est un sujet très délicat. La soirée a commencé par l'intervention d'Ariane. Vous pouvez comprendre facilement que révéler certaines sources dans l'investigation, ça peut poser d'énormes problèmes et que justement le secret des sources, dans certains cas, est fondamental, intrinsèque au métier de journaliste, et nous avons tous intérêt en tant que citoyens que ça soit protégé. Alors il y a probablement des exceptions, je vais en citer une. Il y a un journalisme qui n'est pas représenté ce soir, qui est le journaliste scientifique. Là en revanche, il est indispensable que les sources scientifiques soient citées. Le magazine Epsilon le fait, par exemple. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, je ne connais pas le sujet parfaitement. Et là, mais attention. En revanche, le mot transparence est très important. Qui possède les médias ? Qui touche des financements ? On en a parlé pas mal dans la table ronde précédente. Et là, il y a un vrai besoin de transparence. Et d'ailleurs, dans les 59 propositions, vous trouverez des propositions sur le sujet de la transparence du financement, de l'actionnariat, et c'est un sujet important qui est d'autant plus important que même dans l'EMFA qui a été mentionné tout à l'heure, le European Media Freedom Act, il y a une clause sur la transparence de l'actionnariat. Alors, une presse indépendante des milliardaires, là, on rejoint la transparence. Qui possède les médias ? Déjà, c'est important de le savoir. C'est important que vous tous, citoyens, vous soyez un peu curieux et vous cherchiez cette information. En théorie, les médias doivent la publier. Je dis en théorie, certains le font très bien, d'autres ne le font très mal, voire pas du tout. La presse indépendante des milliardaires aussi, un bout des médias, alors c'est peut-être un petit peu différent de ce que pensent et ce que vivent les gens des médias indépendants. La presse, faire de l'information, ça coûte très cher. En revanche, ce qui est indispensable, c'est de protéger les rédactions de l'influence des gens. Qu'il y ait des personnes qui financent des médias pour que nous puissions disposer d'une information, pourquoi pas ? Mais à condition que, par exemple, il y ait le droit d'agrément dont mon camarade Ophélio a parlé tout à l'heure. Et là aussi, vous trouverez dans les 59 propositions un certain nombre de choses qui demandent de protéger mieux les rédactions, comme le droit d'agrément, la reconnaissance juridique des rédactions. Il y en a probablement que j'ai pas en tête là tout de suite, mais vous trouverez ça dans les 59. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été retenus sur ce sujet-là de protection des rédactions dans les 16 qui ont été extraits et qui avaient le consensus maximum. Alors, on presse. Une dernière que je trouve intéressante et qui va me donner l'occasion, je ne vais pas y répondre parce que je suis presque incapable d'y répondre, mais pour une sécurité sociale de l'information de qualité. Donc ça pose, à mon avis, deux questions. La première, c'est l'accès pour tous à l'information, quels que soient ses revenus. Et ça, c'est un sujet très difficile auquel je n'ai malheureusement aucune réponse. Mais ça pose aussi un autre sujet, c'est les statistiques montrent que très peu de gens sont prêts à payer pour accéder à l'information. Ah bon, alors il y a des gens dont les revenus ne leur permettent pas, ça c'est une chose, mais il y a des gens qui peuvent le faire et qui ne le font pas. Donc ma question, c'est est-ce que vous êtes prêts à payer ? formes d'abonnements, de dons. Il y a plusieurs modèles économiques qui sont représentés là ce soir pour accéder à une information de qualité.
Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Une association citoyenne qui accompagne les médias, donc, et qui vous demande si vous êtes prêt à payer. Qui se lève en premier ? Voilà. Une association citoyenne. Alors vous, citoyen, public ou tout simplement présent, vous avez peut-être vos propres interrogations par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport aux champs qui ont été brassés, etc. Et ça va être le moment de vous avancer, de vous manifester. Je vois. Voilà. Donc il faut qu'une main entraîne un corps et un esprit qui vienne jusqu'ici pour me piquer le micro.
Bonjour. Alors, je m'appelle Stéphane, moi je suis étudiant en école de journalisme et je réagis notamment sur la question de la diversité dans les rédactions. Et donc journaliste, c'est un métier élitiste qui paye mal. Il est très difficile de rentrer en école de journalisme. La profession n'accepte que peu la diversité, c'est-à-dire que si on n'a pas fait d'école de journalisme, il est très difficile de devenir journaliste, alors qu'il y a plein d'autres métiers où, par l'expérience ou par notre parcours de vie, on peut accéder à tel ou tel type de profession. Bon, je parle de mon point de vue personnel, etc. On exige une maîtrise de la langue qui est très élevée. Et du coup, je me dis, compte tenu de tout ce que je viens de dire, comment est-ce qu'on veut ou comment est-ce qu'on peut attirer de la diversité, notamment sociologique, vers les rédactions, alors qu'il y a des gens qui pourraient venir de milieux sociaux différents, ouvriers, agricoles, qui ne maîtrisent pas la langue et qui pourtant ont un regard ou des choses à dire sur les informations ou sur l'actualité. Voilà, c'est ça ma question. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer la nature de la sociologie, entre autres, dans les rédactions.
Merci beaucoup d'avoir respecté la concision. La question s'adresse aussi bien à la salle qu'au panel. Et comme on a une heure ensemble, il faut peut-être qu'on choisisse communément la règle. Soit on les regroupe, c'est-à-dire quelqu'un a vraiment envie de réagir ou de compléter cette question, ou alors quelqu'un peut aussi y répondre parmi les invités qui sont là. Alors, sur le même thème peut-être, de la même façon, quelqu'un veut venir
et à nouveau, si vous voulez, voilà, si vous voulez venir. Et puis, n'hésitez pas du coup à vous inspirer des propositions qu'on a retenues.
Merci, bonsoir. Moi, je suis choqué, si vous voulez, par une chose, c'est que dans les grands médias, les choses qui comptent, ce sont les diplômes. Ce que disait tout à l'heure notre camarade. Alors qu'en vérité, il y a des gens qui sont portés par des flux, qui sont des gens de la base et qui ne s'expriment pas. Et ça, je trouve que c'est quand même le premier problème. Si toute une rédaction est faite de gens qui ont fait 5 ans derrière, ça ne correspond pas à la vie. C'est absolument pas. Donc il faut absolument faire venir des gens... Enfin, moi, j'ai été opérateur de la presse filmée, donc c'est vieux, mais on faisait simplement preuve d'intérêt et de métier. Et ça, je suis sûr qu'il y a des gens dans le public qui peuvent faire ça très, très, très bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Sur le même thème ou bien
sur le même thème, une main ici, si vous voulez venir.
Merci. Pour répondre à l'étudiant en journalisme, oui, donc moi j'ai mis un mot tout à l'heure, mais qui s'apparentait plus à un slogan qu'à une proposition qui était « Vive l'anarchie ». Mais je crois que pour avoir plus de paroles ouvrières, agricoles, de quartiers populaires, etc., alors bon, c'est quand même la base du journalisme que d'aller tendre le micro, mais on peut aussi leur demander d'écrire, et peu importe leur niveau de langue, et d'avoir effectivement des rédactions qui abolissent cette hiérarchie-là entre journalistes et lecteurs-lectrices. Et puis au besoin reprendre avec ces personnes-là voilà, pour rendre ça lisible. Donc ça c'est une première chose, de rendre nos médias beaucoup plus inclusifs. Et c'est vrai que moi je suis toujours surpris quand je vois des médias indépendants qui se créent, allez disons de gauche quoi, de voir que cette hiérarchie-là existe encore entre le lectorat et les journalistes, qui existe aussi dans la structure formelle. On a des rédacteurs et des rédactrices en chef. Et donc c'est pour ça que tous les 6 mois, on a des scandales dans ces médias indépendants, que ce soit Blast, à lire dans le prochain numéro du Mouet sur Ciné Mensuel aussi. Et donc voilà, il faut incarner nos idéaux autant que faire se peut de la manière aussi dont on fait du journalisme. Et ça, je trouve que c'est un grand impensé quand on parle de médias indépendants, finalement. Être indépendant, c'est pas être seulement indépendant du capital, c'est aussi l'être au sein même de nos rédactions. Voilà.
Merci beaucoup. Pardon, vous l'avez fait de façon subtile, mais n'hésitez pas à vous présenter, puisqu'on a défait les postures de sachant, etc., de public. Voilà. Donc, chacun est là, présent, avec ce qui il est, d'où il parle.
Edwin, voilà. Malbeuf, qui travaille pour le journal Mouet, qui est disponible dans la pièce à côté. Journal anarchiste.
Merci. Alors, on a 3 mains qui sont levées. Annabelle, tu démarres, et ensuite ouais. Rémi Kenzo, juste, et ensuite Baya. Ouais.
Moi, j'ai juste un mot à dire, parce que je me dis que peut-être dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas en école de journalisme, mais qui aimeraient écrire, en tout cas, ou qui connaissent des gens qui aimeraient écrire. Ça fait 2 ans que du coup, je publie des lettres et des longs papiers. C'est des grands reportages, c'est des enquêtes, c'est écrit au jeu, c'est une forme un peu inhabituelle. Et je constate, et on le constate avec François, avec qui j'ai lancé La Disparition, qu'en fait, les plus beaux papiers et les plus belles lettres sont écrites par des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Donc, let's go.
Alors le problème, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Le problème, c'est qu'en fait, la montagne, elle est tellement haute à gravir. Le problème, il est structurel. Il commence à l'école de journalisme. Il y a énormément de choses à voir. Nous, il y a une chose quand même dans l'association que je représente, qui est une obsession chez nous, dont on souhaite absolument parler à chaque fois. C'est la question des offres d'emploi. Pourquoi on parle systématiquement des offres d'emploi ? Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. On s'est rendu compte que les rédactions, en fait, elles refusent, pas toutes les rédactions, mais beaucoup de rédactions refusent de rendre systématiquement publiques toutes les offres d'emploi de journalistes. Pourquoi ? Parce que cette profession fonctionne principalement par cooptation. Il y a un entre-soi. Nous, c'est ce qu'on dénonce finalement, en fait, avec la JAR, c'est l'entre-soi de ce milieu qui se reproduit socialement, où il y a une reproduction sociale extrêmement forte, et où finalement, on a une profession qui est constituée principalement d'une sociologie qui est celle de journalistes issus de milieux blancs, bourgeois, urbains. Et d'ailleurs, y compris concernant les journalistes racisés qui arriveront à passer entre les mailles du filet, généralement, on se rend compte que ce sont quand même les journalistes racisés les plus favorisés, c'est-à-dire ceux qui sont issus aussi de milieux qui ont profité de réseaux, etc. D'ailleurs, nous, ça ne nous va pas, en fait. Nous, ça ne nous convient pas. On ne veut pas se contenter de journalistes racisés issus de milieux bourgeois. Nous, on veut des journalistes racisés qui viennent de milieux populaires, qui viennent des quartiers populaires, qui viennent de milieux ruraux populaires, qui viennent de la classe ouvrière. Et ces journalistes racisés-là, en particulier, n'arrivent pas à accéder aux rédactions et, en fait, ils n'arrivent déjà pas à accéder aux concours, aux écoles de journalisme. Tout ça, ce que ça dit, en fait, c'est que ça dit qu'il y a un problème sur la manière dont fonctionne notre milieu professionnel et sur la manière dont elle recrute, dont elle se coopte. Et en fait, finalement, c'est le nœud du problème. Nous, à JAR, c'est ce qu'on dit, en fait, finalement, c'est qu'on ne peut pas régler la question de la diversité dans les médias. Et globalement, je pense qu'on va se retrouver avec les autres associations là-dessus, si on ne règle pas, finalement, la manière dont fonctionnent nos rédactions et si, par exemple, elles ne sont pas juste capables d'un truc en fait bénin, enfin aussi banal que publier systématiquement les offres d'emploi. Et on se rend compte que c'est une bataille, ça ne devrait pas être une bataille, mais on se rend compte que dans nos rédactions, c'est une bataille que d'obtenir de nos chefs qui rendent publiques les offres d'emploi, pour que tout le monde puisse postuler. On était, la JAR, on a participé aux EGPI aussi, à Paris, etc. Sur la question de conditionner les aides à la presse, par exemple. Sur la question des conditions d'aide à la presse, nous on a dit... évidemment, il faut conditionner les aides à la presse à un certain nombre de critères qui a commencé par respecter en fait le droit du travail. Les entreprises qui respectent pas le droit du travail, en fait, qu'elles dégagent, out, et elles peuvent pas profiter des aides à la presse. Ça paraît normal. Et puis, en fait, il y a un certain nombre de choses qui paraissent assez logiques comme ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas suffisant. Il faut aussi conditionner les aides à la presse à la question de la diversité, et ça signifie conditionner les aides à la presse à la question des offres d'emploi et de la publication systématique, publique, des offres d'emploi.
Merci.
Oui, alors pour réagir par rapport à ce que disait l'étudiant en journalisme, alors déjà le journalisme est une peut-être des rares professions pour laquelle il n'y a pas besoin de diplôme pour exercer. Non, il y a énormément de journalistes qui n'ont jamais fait d'école et qui sont d'excellents journalistes. C'est beaucoup plus dur, effectivement, de devenir journaliste quand on n'a pas fait d'école, notamment, et je rejoins complètement ce qui a été dit, parce que c'est une profession qui fonctionne par cooptation. Et donc, quand on n'a pas de réseau, faire une école, ça permet d'avoir du réseau et ça permet ensuite d'être recruté. Donc, c'est un parcours qui est plus compliqué, effectivement, quand on ne fait pas d'école de journalisme, mais c'est tout à fait possible. Il y a énormément de journalistes qui... n'ont pas fait d'école, elles sont d'excellents journalistes. Et sur la question de la diversité des sujets, là c'est une autre question, mais que je trouve extrêmement intéressante aussi. Moi je rêve du jour où on demandera en fait aux citoyens et aux citoyennes qu'est-ce qu'ils veulent comme sujet, parce qu'après tout, le service public, c'est quand même notre argent, c'est l'argent de nos impôts, que ce soit dans les télés ou dans les radios, et on n'a jamais le droit de demander, nous, nos sujets sont toujours des rédacteurs en chef, des directeurs de rédaction, qui choisissent finalement les sujets pour les journalistes, parce que les journalistes, s'ils ne sont pas en CDI, ils ont un rapport de force, ça rejoint aussi ce qui a été dit, qui est très faible. Quand on est pigiste, on n'a pas forcément la possibilité d'imposer ses sujets. Déjà, quand on est en CDI, c'est une bataille, mais c'est déjà plus facile. Et moi, je rêve du jour où ce serait effectivement des citoyens tirés au sort, représentatifs de la population française, qui choisiraient le menu du journal en conférence de rédaction. Après tout, ce n'est pas les rédacteurs en chef qui écrivent les papiers, donc ce ne serait pas aux citoyens d'écrire les papiers, mais ça pourrait être à eux de décider des sujets, et ensuite les journalistes chargent aux journalistes de faire leur boulot, comme quand ils sortent de conférence de rédaction et qu'on leur a attribué un sujet. Et ce ne soit pas seulement les rédacteurs en chef et les directeurs de rédaction qui décident. Merci.
Anne Brezin.
Moi, j'ai envie de proposer un petit pas de côté pour vous parler de ce qui se passe en Allemagne. Ils appellent ça les Offenerkanal. C'est financé par les Landes. Il y en a dans toute l'Allemagne, dans tous les Landes. Et en fait, c'est des canaux ouverts qui donnent la place en fait, à tout le monde de pouvoir s'emparer du média. Sans restriction, donc ça fait un peu flipper aussi, sans ligne éditoriale, sans, alors bien sûr avec des règles de base, de sécurité d'autrui, mais qui ouvre ces canaux-là et qui donne la parole. Et du coup, il y a une diversité des sujets qui sont traités. Ça passe sur la TNT et ça laisse une forte possibilité, je trouve, à cette diversité. Et c'est payé institutionnellement, en fait. Enfin, il y a des financements pour, d'accord, en tout cas.
Alors, on va repasser dans la salle si on a des questions sur le modèle économique et sur les questions d'indépendance économique. Mais je vais inviter madame qui lève la main à nous rejoindre.
Bonsoir, je m'appelle Céline Gilly. Je ne fais pas du tout partie de la profession. Je suis bibliothécaire à la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence. Et pour rappel, par rapport à la presse payante, sachez que vos bibliothèques aussi sont un média. Enfin, sont un vecteur de vos médias. Nous, pour notre bibliothèque, on a un abonnement à 354 journaux, que ce soit locaux, nationaux, internationaux. Donc, il ne faut pas les oublier, parce qu'on est souvent un peu les grands oubliés, alors que beaucoup, beaucoup de lecteurs, et surtout des lecteurs qui ont peu de moyens, passent par nous. C'était une petite parenthèse. J'ai une question par rapport à une remarque par rapport à la profession qui va rejoindre un petit peu ce que vous disiez par rapport à la diversité des personnes représentées, par rapport aux moyens et par rapport à la formation. J'ai un collège qui m'a... Je précise que je suis référente EMI pour les bibliothèques Méjeanne. Donc je fais de la médiation EMI autour des différents médias. Et j'ai été sollicitée par un collège cette année qui voulait qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, qui s'insinue tranquillement mais doucement, mais assez sûrement dans vos métiers. Et en fait, cette intelligence artificielle, on s'est aperçu avec la classe, en faisant vraiment un travail de fond, qu'elle générait du média, beaucoup de médias, beaucoup d'informations, que c'est vraiment un agrégateur d'informations qui remplace le point de vue, l'acuité d'un journaliste, la formation d'un journaliste. Alors ce qui est bien, c'est qu'on fait de la prévention par rapport à ça. Et je voulais en fait avoir vous, votre point de vue par rapport à la formation. Si une IA n'est pas formée dans une école de journaliste, une IA n'a pas d'identité, une IA n'a pas de race, ni de genre. Voilà. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste, Elle est dirigée par quelqu'un, cette IA, ne soyons pas dupes. Mais voilà, c'était vraiment une préoccupation forte des enseignants et des élèves, mais aussi de notre public. Merci.
Une autre question de la salle avant de rebondir. Madame, si vous voulez venir.
Si possible, en allant dans les mêmes directions pour qu'on puisse ressaisir des choses sur les usages que vous auriez de ces nouveaux outils.
Moi, je veux bien essayer de rattraper. Du coup, c'est moi qui ai posé.
J'avais l'impression qu'on partait un peu dans deux directions de discussion différentes. Ça n'empêche pas d'avoir des réponses aussi variées. Mais du coup, des nouveaux usages qui incluent le numérique, etc., des médias, il y a peut-être des gens qui veulent encore compléter ce fil-là. Et puis, des questions, effectivement, économiques de participation, de prise en participation par les citoyens eux-mêmes pour s'organiser dans l'accès à l'information. Vous suivez un troisième fil ou vous voulez compléter ça ou voilà,
depuis la console.
Non, c'était juste pour répondre à la dame. Je vous conseille d'aller voir Histoire Crépue, qui a fait une vidéo qui parle comment, et pour revenir aussi à ce que disait la dame d'avant, comment les IA peuvent avoir des biais racistes. Et cette vidéo est super bien archivée. Ils ont fait des tests parce que maintenant les IA peuvent construire des photographies. Et comment, en gros, du coup, ce qu'il dit, comment Internet et tout ça ont des biais racistes. Du coup, je vous conseille en tout cas même d'aller voir toutes les vidéos, toutes les ressources d'Histoire Crépue. Il fait un travail incroyable sur voilà, tout ça.
Merci. Merci. Est-ce qu'on laisse le panel réagir un petit tour ou
s'il le souhaite, ou s'il y a des regards critiques complémentaires.
Alors,
ou constructifs.
On a Romary qui lève la main, et puis ensuite, monsieur ici.
Je vais revenir un instant sur le financement, parce qu'il y a un financement dont on ne parle pas et auquel on ne pense pas. C'est l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, comme vous le savez, la redevance a été supprimée. Donc aujourd'hui, elle est financée par le budget de l'État, par un montage assez compliqué sur lequel je serais incapable de l'expliquer correctement. Mais du coup, il y a le risque que cet audiovisuel public ne soit plus financé de la même manière sur le long terme. Donc, or, aujourd'hui, l'audiovisuel public, les chaînes de télévision et de radio de l'audiovisuel public sont accessibles à tout le monde. Donc il est aussi important que nous, citoyens, sur ce point-là, soyons vigilants sur le financement de l'audiovisuel public et qu'on insiste à ce que ces chaînes de télé et de radio soient financées correctement, puisque c'est une possibilité d'accès à l'information ouverte à tout le monde.
Ouais, juste une petite remarque. Désolé. En ce qui concerne du coup, je suis journaliste à Moué. Je suis journaliste anarcho-schlag dans un journal intégralement bénévole. Et anarcho-schlag, oui, c'est un statut très particulier. Niçois, en plus, anarchiste niçois, c'est compliqué. Mais et donc, enfin, avec des collègues de différents médias du pays, on a créé ce qui s'appelle le syndicat La Presse Pas Pareille. Qui vise du coup à défendre du coup ce espèce de tiers état du coup de la presse indé, enfin parce que dans les médias indépendants il y a vraiment trois milieux, enfin les milieux des médias mainstream voilà qui font leur travail de médias mainstream, les gros médias indépendants ou moyens médias indépendants qui ont les salariés etc, et c'est très bien pour eux et franchement on les en félicite et ils font un très bon boulot, et il y a du coup les marginaux donc dont nous sommes, c'est-à-dire des médias qui sont des médias locaux qui font ce qu'ils peuvent pour vraiment faire un travail journalistique de qualité, mais qui généralement ne sont pas payés, sont RSA, sont minima sociaux, etc. Et du coup, comment financer ça? Comment financer ce travail? On parle vraiment de centaines, voire de... Enfin, je ne sais pas comment quantifier, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup, des centaines de personnes qui sont concernées par ce statut, des gens qui font un travail d'investigation pointu, qui s'investissent jusqu'à 50-60 heures par semaine pour ce travail, et qui ne sont pas payés. Donc nous, ce qu'on propose, et on parle de financement des médias indépendants, c'est par exemple, et ça a fait, au CGPI de Paris, ça a fait débat, l'idée de enfin, ce qu'on propose, c'est un statut d'intermittent de l'écriture, enfin, c'est, sachant que l'information est un service public, pour nous, ça nous paraît nécessaire du fait que nous sommes des agents, nous sommes des créateurs de contenu culturel à d'utilité publique, donc ça nous paraît anormal du fait qu'on ne puisse pas vivre de ça, enfin, c'est que le travail de temps d'investigation, d'écriture, de recherche, de machin, ne soit pas rémunéré et qu'on soit obligé de vivre au putain de RSA et de crever, de galérer à piler croquettes de nos chats, quoi. Enfin, c'est... J'aime beaucoup mon chat. Aussi.
Merci.
Et donc voilà, on propose ça, et je pense qu'en termes d'inclusivité, ce serait aussi une façon pour que des gens qui viennent pas des écoles puissent accéder à ce travail de journaliste, parce que tout le monde peut être journaliste. Vraiment, journaliste, c'est pas une fonction, c'est une activité. C'est journaliste, c'est recouper ses sources, c'est lire, c'est se renseigner, c'est écouter, c'est donner la voix ou sans voix. Enfin, c'est une activité, tout le monde peut le faire. Et vraiment, enfin, je pense que le fait d'avoir ce statut-là, cette possibilité-là de faire ce travail de façon digne, avec de quoi vivre, ça permettrait à des personnes racisées, à des personnes qui vivent dans des classes populaires dont je viens, enfin, ça permettrait de nous permettre d'accéder à ça sans passer par la case école, juste d'arriver à... Juste, voilà, enfin, ok, t'as un sujet, tu le creuses, tu le travailles, tu le publies, tu vas être payé pour ça. Enfin, et ça permettrait vraiment, je pense, de résoudre les problèmes à la fois du financement et de l'inclusivité. Et en plus, pour le financement, on sait qu'il y en a dans les poches du patronat. Donc, voilà. Et vive l'anarchie aussi, bien sûr.
Merci. Un petit tour par le panel. La console, très, très mobilisée.
Voilà, la console mobilisée. Sur l'enjeu de... Ça m'évoque un journal que j'aime beaucoup qui s'appelle Tumult, qui est un journal féministe et qui sort à peu près une fois tous les deux ans. Parce que voilà, c'est le temps des personnes qui ne sont pas rémunérées pour produire des médias avec des gens qui ne se sentent pas légitimes à écrire. Et c'est vraiment un travail de fond qu'elles font qui est génial, parce qu'elles prennent le temps d'encourager des personnes qui ne sont pas dans l'écriture d'aller à l'écriture avec elles. Et pour moi, ça, c'est un des travaux intéressants d'un éditorialiste, etc. C'est aussi d'aller chercher les gens pour s'exprimer. Et je trouve une autre chose que ça m'évoque, tout ça, c'est du travail que j'ai pu mener à l'époque à Lyon, où pendant les mouvements sociaux, en tout cas, on s'alliait entre la presse écrite et la radio pour être sur les blocages, pour relayer toutes les informations qui n'étaient pas diffusées dans la presse mainstream. Et tout ce travail-là, en fait, on voyait que de faire des QG de médias indépendants pour vraiment aller chercher la parole des personnes pendant les piquets de grève, c'était mille fois plus efficace que de s'éparpiller à courir partout. Et ça faisait aussi qu'alors qu'on n'était pas forcément hyper connu, ça valorisait la parole des gens, et du coup, en très peu de temps, on avait pas mal de crédibilité.
Merci. Est-ce que dans le panel, on a quelqu'un qui voudrait soit rebondir, soit reprendre une idée du tableau ?
En tout cas, on entend parler de service public, on entend parler de mission d'intérêt général. Chacun se sent très investi autour de ce bien commun précieux qui nous réunit ce soir. L'information, vous y prenez part, vous en êtes peut-être usagé, et on a besoin d'entendre comment et à quelles conditions on peut exercer nos métiers. Donc vraiment, je sais qu'il faut se lever, mais les micros sont à disposition. Donc voilà. Oui, non, il y a quelqu'un qui réagit là ou qui amorce un mouvement. Voilà, venez peut-être compléter peut-être les questions et qu'on entende aussi des réponses.
Non, moi c'était. Je m'appelle Léna, je travaille à CQFD. CQFD que je situerai dans le jeune homme qui est venu avant et qui a parlé des trois types de presse indépendante, avec une presse indépendante où la moitié sont bénévoles. CQFD, c'est plutôt dans ce tiers-là, du coup. Mais moi, c'était pour continuer en fait le fil, poser la question de l'économie de l'attention. Donc moi, je suis journaliste, j'aimerais continuer à pouvoir faire ce métier. Je travaille pour la presse papier. Ma maman est abonnée. Je ne suis pas sûre qu'elle lise mes articles en entier. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'essaie de lire que mes articles dans le journal qu'elle reçoit pourtant tous les mois. Mes amis font parfois semblant de lire une partie de ce que j'écris, mais la plupart du temps, je les suspecte de ne pas lire le journal en entier non plus. Et d'ailleurs, s'ils ont le journal, c'est bien le seul qu'ils ont, parce que je suis leur copine. Sinon, ils s'informent eh ben, comme moi, avant de rentrer en école de journalisme, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Ça paraît peut-être presque un peu honteux à dire dans ce genre de soirée, mais moi, avant de rentrer en école de journalisme, j'avais jamais lu la presse, vraiment. Et pourtant, j'étais à l'université et tout, mais je lisais pas la presse. Et donc aujourd'hui, voilà, je pense que l'information journalistique, elle s'inscrit dans une économie de l'attention où il faudrait pouvoir, dans la même journée, regarder sa série. Enfin voilà, l'attention, elle est toujours sollicitée. Elle est sollicitée énormément par le numérique, par les réseaux sociaux, par plein d'autres choses. Et nous, qui essayons de produire de l'information, on s'inscrit dans cette espèce de marasme où on est tout le temps sollicité. Et c'est vraiment une question que, si quelqu'un a des pistes, des réponses, parce que moi, je suis un peu désespérée. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour que l'information, encore plus l'information indépendante, elle s'inscrive dans cette prolifération d'informations et un peu aussi dans tous les milieux, parce que en rejoignant la question de la diversité, parce que du coup, enfin, je sais pas si c'est clair, mais plutôt ma famille et mes amis sont peut-être pas non plus des milieux sociaux où on lit la presse papier, quoi, typiquement.
Après, juste juste pour rebondir à titre personnel de journaliste, je pense que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a aussi du journalisme. Il faut pas. J'aime beaucoup la presse papier, mais en fait, c'est pas parce qu'on s'informe sur les réseaux sociaux qu'on s'informe pas. Voilà, c'était juste quelque chose sur lequel j'avais envie de rebondir. Annabelle.
Ouais, je vais juste dire un truc qui est comme mon précédent passage de l'ordre du témoignage, mais j'ai l'impression que là. On parle en fait aussi beaucoup du point de vue, et je pense que le point de vue, il est en fait intéressant, important et même primordial, et c'est ce que tu dis, Rémi, et pareil, Baya, en fait, le point de vue des personnes racisées, en fait, ils doivent être entendus, ça doit être écrit, ça doit être considéré. En fait, je pense que c'est quelque chose, alors je sais pas si c'est une piste, parce que ça peut paraître fumeux ce que je dis, et peut-être d'ailleurs que ça l'est, j'en sais rien, en fait, mais je pense que peut-être qu'il faut revendiquer peut-être une identité. Et c'est ce que je pense que tu fais avec la JAR, et je pense le faire, mais encore plus. Et je pense que, je reviens à la première intervention sur l'intelligence artificielle. Donc pareil, témoignage, quoi. Je ne suis là pour ça et que ça, je pense. Je donne des cours dans une école de journalisme à Montpellier, et en fait je fais un exercice qui est d'envoyer les élèves en reportage une journée sur ils doivent faire un article de type PQR, c'est-à-dire presse quotidienne régionale, voilà, quelque chose qui se fait vite, qui s'écrit vite, et je leur demande, avec exactement le même terrain, avec les mêmes interlocutrices, interlocuteurs, de me réécrire la même chose sous forme de lettres, c'est-à-dire au jeu, en y mettant ce qu'ils n'auraient pas écrit, pas mis dans l'article conventionnel, quoi. Et il s'est avéré cette année que la version lettre, je l'ai trouvée très étrange, très trop différente de la première version de l'article de PQR, et j'en ai conclu qu'en fait, c'était de l'intelligence artificielle, quoi. Et elle m'avait dit, par ailleurs, quelques jours avant, que oui, elle l'utilisait parfois pour des articles, etc. Bon, j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit que non, mais avec les autres professeurs, on s'est dit que si. Et donc, je lui ai demandé de le réécrire au jeu, quoi, vraiment, parce que le problème, c'était que, en fait, cette lettre ne marchait pas. On y croyait, c'était pas son jeu, c'était pas ça, c'était pas ce qu'elle avait vu, c'était pas ce qu'elle avait vécu, c'était pas ce qu'elle avait vraiment ressenti. Et donc, peut-être qu'on peut se raccrocher à ça, par rapport à l'intelligence artificielle, en se disant que peut-être un petit peu plus de soi-même, de ce qu'on voit, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de là où on vient, peut-être une porte de sortie ou d'espoir.
Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire, mais je vais quand même le dire.
On a un panel qui est dans l'écoute. Voilà, le panel est... Écoute, Rémi Kenzo, ceci dit, vous étiez en train de reprendre le micro. Alors, bon, bah, alors, dans la salle, une intervention, allons-y, on vous attend.
Ah. Ouais.
Alors, bah, on fait comme ça, ensuite Madame, et ensuite Rémi Kenzo. Comme ça, on continue le ping-pong.
Moi, je pense que l'intelligence artificielle, effectivement, elle est en train d'arriver. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'en éducation aux médias, notamment, ça peut être intéressant de s'en servir en termes de recherche, en termes de comment est-ce qu'à un moment donné, c'est un biais de recherche et pas pour remplacer en fait, l'humain, parce qu'en fait, ça se sent. Moi, je l'ai essayé, ça se sent, en fait. Et puis, c'est un point de vue assez capitaliste, hein, des choses, en général, même quand on essaye de le bifurquer, quoi. Du coup, c'est de regarder aussi ses usages et peut-être pas de prendre le temps de décortiquer les usages possibles et intéressants de pouvoir en faire, sans le bannir trop vite. Je pense que c'est un peu le risque, parce que sinon, les jeunes... ça va vite et c'est pratique aussi, quoi.
Allons-y, Simone.
Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit ce soir, c'est vraiment très intéressant. Moi, en fait, ce que j'avais écrit, parce qu'il y avait une question d'envoyer, et en fait, j'avais mis que c'était... je ne m'attends pas à ce que les journaux soient neutres. Je ne pense pas que les journaux soient neutres, peu importe la ligne éditoriale. Et par contre, moi, ce que je souhaite quand je lis un article, c'est que les faits soient présentés et ensuite il y a une analyse ou le décryptage par le journaliste, parce que je pense que c'est important de laisser une part de l'analyse de l'esprit critique au lecteur, et peu importe leur point de départ, peu importe leur opinion. Et sur ce point, il y a un nouveau mini-média sur Insta qui s'appelle L'Esprit Critique, justement, qui est très intéressant et qui donne des outils aux followers de former leur propre esprit critique. Donc moi, c'est un peu ça que j'avais... parce que je suis pas mal de médias, Mars Actu ou Médias Vivants, que je suis depuis un moment, mais d'autres médias, je sais pas, il y a Blast, Think of You, il y en a plusieurs que je suis, et j'aime beaucoup les sujets qu'ils proposent. En revanche, je trouve que parfois le ton est trop alarmiste, trop anxiogène, et ça, je peux le dire la même chose des médias conventionnels, des grands quotidiens que je lis aussi, Le Monde ou Libé, et ça devient très anxiogène de lire beaucoup de nouvelles. Je dis pas que tout est rose ou que voilà, mais je pense que c'est peut-être que c'est ça aussi qui fait que les gens lisent de moins en moins de la presse, et peu importe le titre, c'est aussi parce que ça devient très anxiogène et qu'on essaie de se protéger, quoi, en gros. Donc voilà, c'est que je...
Malheureusement, je pense que l'actualité est anxiogène et que les journalistes sont aussi là pour relater cette actualité qui l'est de toute façon. Mais ça ne va pas vraiment répondre aux questions qui ont été posées, mais des choses qui ont été dites m'évoquent ceci, que je vais vous partager. Un constat que nous on fait dans l'association dans laquelle je suis, c'est qu'à force d'être exclu des médias, des rédactions, on s'est rendu compte que beaucoup de journalistes racisés, finalement, décidaient de lancer leurs propres médias. Voilà, il y a un certain nombre de médias dits communautaires, qui d'ailleurs, c'est assez frappant de voir comment ces journalistes sont souvent pas reconnus comme journalistes par leurs pairs, parce qu'en fait, finalement, ils évoluent dans un écosystème de l'information qui est un peu en parallèle. Je pense à des médias comme le Bondi Blog, par exemple, ou Africulture. Ou Banmi Media, je ne sais pas si vous connaissez, ou Bissap Media, des choses comme ça qui sont développées par des journalistes racisés, certains issus de la communauté asiatique, d'autres issus des quartiers populaires, etc., etc. Et en fait, c'est symptomatique de quelque chose qui est que finalement, nous autres journalistes, avec des profils différents, on n'est tellement pas acceptés dans cette profession que pour pouvoir vivre de ce métier, on est souvent obligés de se regrouper et de développer d'autres médias qui, eux-mêmes, n'arrivent même pas à obtenir la reconnaissance, la légitimité, on va dire, du métier. Voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui fait réfléchir, et ça mérite aussi que ce soit dit, quoi. Et ça dit aussi beaucoup, je pense, de cet entre-soi, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure.
Merci Rémi Kenzo. Alors... On ne s'est pas vraiment donné de limite, on s'est autorisé à un peu déborder, voyez, on a un peu dépassé 22h, etc. On se dit qu'on est un peu quand même dans les 10 possibles dernières minutes ensemble, ça crée des frustrations, tant mieux, c'est aussi des désirs, je ne sais pas. En tout cas, je vois quand même qu'il y en a qui ont encore envie de prendre la parole, donc avancez-vous, venez qu'on vous entende, qu'on vous voit. Et puis on peut mettre ça en commun pour aussi continuer des échanges un peu libres. Ça, ça laisse le temps d'aller boire un verre, de se retrouver encore dans le village des médias un peu après. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lever ou voilà, ou prenez-moi le micro des mains, je vous en prie.
Merci. Bonsoir. Alors moi je m'appelle JN, je suis un peu là par hasard. Je passais dans le quartier, j'ai échangé avec une personne qui m'a présenté un petit peu l'événement que j'ai trouvé intéressant et donc je vous ai écouté assez attentivement, alors pas durant tout l'événement. Mais voilà, j'ai trouvé les sujets très intéressants. Moi, je travaille dans le numérique, sur des politiques numériques culturelles, sur le sujet de la data. Et donc, il y a pas mal de choses qui m'ont interpellée sur, par exemple, les informations qui seraient payantes. Et je comprends que ce soit un sujet. Il y a aussi, on vit à une ère où bon, bah, le numérique, il est ce qu'il est. Et on vit à une ère où on parle beaucoup d'open data, de données libres, gratuites, ouvertes. Et donc je voulais en fait apporter une remarque par rapport à la question qui a été posée sur l'intelligence artificielle. Je voulais simplement dire en fait que l'intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas toute seule. Que l'intelligence artificielle, elle s'appuie en fait, elle ingère des corpus, elle ingère un certain nombre de données. Et quand elle vous répond à une question, en fait, elle s'appuie sur ces corpus pour vous répondre à ces questions. Et du coup, ça veut aussi dire que la parole que vous portez en tant que journaliste antiraciste et racisé, elle me semble pour moi assez importante. Et je pense que voilà, vous portez comment dirais-je, la voix d'une certaine diversité qui est assez importante. Et cette voix-là sera exploitée par ces technologies d'intelligence artificielle. Donc pour moi, votre voix, elle compte, elle est hyper importante. L'ouverture de cette voix compte aussi, même si je comprends qu'il puisse y avoir aussi des sujets en lien avec la façon dont on se rémunère aussi. Donc c'est un sujet qui a été abordé aussi tout à l'heure par un copain niçois, puisque je suis niçoise aussi. Et voilà. Et puis effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que l'intelligence artificielle, même si elle fonctionne sur la base de corpus, même si elle ne fonctionne pas toute seule, qu'il y a aussi effectivement des biais, que derrière elle est drivée, qu'il y a des entreprises économiques qui ont certains intérêts, et d'être quand même extrêmement vigilant sur le sujet de ces biais qu'on retrouve dans les algorithmes parfois de ces intelligences artificielles. Voilà.
Oui, très bien. Merci beaucoup pour ces échanges à la fois assez libres, profonds, sincères en tout cas. Et peut-être qu'effectivement, avant que Jean-Baptiste et Léna, qui ont eu l'ensemble de la conduite de la soirée, reprennent le lead de la suite, vous vouliez parler. Et puis vous également aussi ? Mais...
Deux mots en 2 minutes. Deux mots en 1 minute. Je voulais remercier les organisateurs de ces états généraux à Marseille. J'ai été à Paris et aux mêmes états généraux. C'était univoque. En fait, c'était dans un sens et il n'y a pas eu de débat avec les gens, les citoyens qui étaient là, qui étaient nombreux. Beaucoup s'en sont plaints après. Et à Marseille, encore une fois, ville un peu anarchique, très ouverte et inclusive, eh ben, il y a eu la parole des citoyens et puis des gens qui s'intéressent de toutes les façons à la parole médiatique ou médiatisée. Et je remercie cette organisation d'avoir ouvert le débat aux autres, aux gens qui peuvent aussi participer au discours public, qu'on ne dira pas médiatique, mais au discours public. Merci Marseille pour ça.
Oui, juste pour finir la soirée, je voudrais conclure sur un point un peu concret, c'est les conditions de travail qui se détériorent dans notre profession, que ce soit en presse écrite, en télé, que je connais bien, ou même en radio. Et le problème, c'est que quand on n'est pas en CDI, quand on est pigiste, et c'est en train de devenir la norme pour notre profession, je pense notamment aux émissions de télé où autrefois les gens étaient embauchés directement par les chaînes, notamment les chaînes du service public. Et c'était des réalisateurs, des réalisatrices, des journalistes, de magazines, de documentaires, de grands reportages qui étaient en CDI dans les chaînes. Ça, je vous parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est tous pigistes ou intermittents du spectacle. Et donc, quand on propose un sujet et qu'il est refusé, ben, finalement, on n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de dire bah si, il faut qu'on le fasse quand même, etc. On peut pas dire bah puisque c'est ça, j'en fais pas un autre. Enfin, on peut pas se mettre en arrêt maladie ou je ne sais quoi. Finalement, le seul moyen pour qu'on continue à faire ce travail qu'on aime et qui est notre passion, bah, c'est d'accepter aussi les sujets qu'on nous propose, où finalement on va finir par se dire bah tel type de sujet, donc des sujets qui dérangent en fait globalement, sont pas acceptés. Et on nous dit toujours non, mais ça n'intéresse pas les gens. C'est pas qu'on sait pas assez concernant. Ou alors non, mais ça on le fait plus. Ce type de questions-là, on le fait plus. Moi, j'avais proposé un sujet sur la ségrégation scolaire, et on m'avait dit non, mais tu sais, en télé maintenant, on ne fait plus des grands dossiers comme ça où on analyse les choses d'un point de vue sociologique ou systémique. On veut des histoires. Et donc, il était tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça a été fait donc de faire un documentaire sur une expérience donc dans un collège où il y a eu une fusion donc d'un collège très bourgeois et une fusion d'un collège très populaire où ils se sont rendus compte bah, que de mélanger les enfants c'était bien, voilà. Donc ça c'était possible de le faire, mais par contre faire un sujet global sur pourquoi la carte scolaire ne permettait plus, enfin ne permettait pas la mixité sociale et comment c'était voulu par les élus, ça par contre c'était pas possible. Mais la réaction, ça n'a pas été non, ça, si tu veux, c'est un peu trop dérangeant comme sujet. C'est non, on ne fait plus de dossier. Ce qui nous intéresse, c'est des histoires. Il faut que tu racontes une histoire particulière. Et c'est vrai que quand on est pigiste ou intermittent, face à ça, ben, on ne peut rien faire. Donc je pense qu'il y a aussi un énorme travail à faire du côté des conditions de travail dans notre profession qui doivent être améliorées grandement.
Et justement, il y a juste derrière l'affiche qui disait des modèles économiques stables pour durer, laisser le temps au travail journalistique sans souci d'argent. Rémi Kenzo.
Ouais, en fait, cette question des conditions de travail, elle est aussi très liée à la qualité de l'éditorial et à la qualité de la production de l'information. On ne peut vraiment pas faire le distinguo, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup le lien. D'ailleurs, les syndicats disent souvent notre précarité, c'est votre désinformation. Et c'est très vrai. Ça vaut aussi, du coup, pour nous, aussi sur la question des journalistes racisés. Et je voulais en profiter pour vous donner deux chiffres qui dit aussi beaucoup sur les conditions de travail de nous autres. Nous, on s'appuie beaucoup sur un constat qui a été fait par une enquête, celle du SNJ-CGT, sur le racisme dans les rédactions, qui a travaillé notamment sur la division raciale du travail journalistique. Donc c'est une enquête qui a été publiée il y a un peu plus d'un an. Et qui montre que près d'un journaliste sur deux dit être témoin de racisme au travail, notamment donc dans sa rédaction. Sachant que l'enquête, c'est des répondants qui ne sont pas forcément des personnes racisées, donc c'est aussi des personnes blanches, des journalistes blancs qui ont répondu à ces enquêtes. On se rend compte qu'une personne sur deux qui est témoin dans sa rédaction de racisme, c'est en fait énorme. C'est une réalité subie vraiment importante, et qu'une personne sur quatre, près d'une personne sur quatre, dit être victime de racisme. Ça, c'est la réalité aujourd'hui dans nos rédactions. Cette enquête, elle est vraiment importante parce que nous, on manque de données, en fait. On espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, des enquêtes comme celle-là, y compris sur les écoles de journalisme, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données sur les écoles de journalisme, notamment sur les conditions d'études des futurs journalistes. En France, on a ce problème qui est que c'est très difficile pour nous de produire du savoir sur les questions qui nous sont propres, celles de la diversité, etc., parce que notamment les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Mais on est confronté à cette situation qui est très dure matériellement pour nous de quantifier toutes ces réalités. Mais ce sont des réalités. Et on a quelques enquêtes, il y a aussi des enquêtes universitaires, je pourrais vous inviter à aller voir le travail de Marie-France Malonga, par exemple, etc. Il y a des gens qui font ce travail-là. Souvent, il est quand même abordé d'un point de vue qualitatif d'abord, mais ils arrivent à avoir quelques données sur la base du ressenti, etc., de personnes. Mais moi, je vous invite vraiment, bon, les journalistes qui sont dans cette salle, puis je ne sais pas s'il y a des universitaires ou autres aussi dans la pièce, mais à faire ce travail aussi, parce que nous, c'est un outil pour nous qui va nous aider énormément si demain, on a plus d'études qui peuvent vraiment quantifier cette réalité, nous dire quelle est son ampleur. Et à chaque fois, en fait, on le voit, hein, il y a aussi les études de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y a aussi le rapport annuel du CSA, qui est uniquement sur le traitement médiatique. Mais à chaque étude, on le voit vraiment que cette réalité, elle est importante, et qu'à chaque fois qu'on a des chiffres, bah, il montre quelque chose qui est énorme, en fait.
Merci. Romarie. Un petit mot sur l'indépendance pour conclure.
Je peux dire un petit mot sur l'indépendance, oui. Alors vous avez comme je l'ai dit, je ne suis pas journaliste, mais je reste convaincu. Voilà, moi, c'est exactement ça. Hein. Boudé Média a été créé sur un constat extrêmement simple, c'est que l'information dont les citoyens doivent disposer est un élément indispensable de la démocratie. Donc moi, je vous invite, ceux qui ne sont pas obligatoirement du métier, à vous intéresser au sujet, à être curieux, à chercher peut-être des informations à d'autres endroits, par d'autres médias, et à regarder de façon multiple, pour vous faire des idées. Il existe plein de médias qui cherchent des lecteurs, des gens qui les écoutent ou qui les des téléspectateurs. Donc n'hésitez pas, à aller voir ces médias, à les regarder. Il y en a que vous aimerez, il y en a que vous n'aimerez pas. À vous saisir des sujets et à être curieux de qui possède les médias, par exemple. Voilà.
Merci. On va rendre l'antenne. Merci à tous. Alors merci au panel d'être venus parfois de loin et d'avoir partagé toutes ces démarches. Merci au public qui est resté tard pour cette veillée de débat et d'échange. Je trouve qu'on a tenu un fil, on a eu plein d'idées, mais je trouve qu'il y a des axes qui se sont dégagés. C'était intéressant. Merci pour votre écoute. Et puis je repasse le micro pour le mot de revoir à Jean-Baptiste Moutet.
Et merci pour ceux qui continuent à discuter ensemble, hein, vous pouvez le faire dans tous les coins.
Jean-Baptiste Moutet, pour conclure. Encore merci à tous. C'était juste pour vous dire que les états généraux de la presse indépendante continuent dans toute la France. Donc il y a eu Marseille, il y a eu Bordeaux, il y a eu Strasbourg. Et le 29 janvier, ce sera Toulouse. Ensuite Lyon le 6 février, le 22 février Nantes et ensuite Tours, Lille. Donc voilà, on doit essayer d'amplifier ce mouvement. À toi.
Et mot de la toute fin qui recoupe exactement ce qu'a dit Romarie. On s'était dit quand même qu'on voulait finir sur une harangue et une espèce de déclaration d'amour de la part de deux journalistes indépendants à leur lecteur public. Et voilà, répéter ce truc que Romarie vient de dire. Hein. Donc désolé Romarie, je répète, merci un bout des médias. Mais si on fait de l'information, c'est pour un public, c'est pour un lectorat, c'est pour des auditeurs et des auditrices. Et sans vous, il n'y a pas d'information indépendante et il n'y a pas d'intérêt à la produire. Donc merci d'être venu à cette soirée des EGPI. Et surtout, venez, on va être là encore un moment. Le bar est encore ouvert. Je sais que c'est important ça. Et on sera à côté au village des médias, pour la plupart d'entre nous, à présenter, défendre, vendre, pourquoi pas, nos médias indépendants. Et ce sera aussi une occasion de continuer à discuter tous et toutes ensemble. Et voilà, merci. Au revoir.